À l'heure de la sieste, Marion rêvasse aux nouvelles connaissances apprises grâce aux recherches faites pour le travail de sa fille et refait le monde. Si seulement les êtres humains de la planète entière pouvaient mettre en valeur les enseignements de ces libres penseurs avant-gardistes. Il est parfois bon de regarder d'où l'on vient pour savoir où l'on pourrait aller, non ? Des hommes et des femmes se sont battus pour défendre leur liberté affective et sexuelle en s'affranchissant de la hiérarchie masculine pour ce qui est des femmes. Économiques, elles se sont mises en grève lorsque les corporations ont tenté de leur imposer des règlements abusifs. Leur liberté de penser, finalement. Dire que tout ce quartier possède un patrimoine historique d'une richesse inexploitée. Elle reconnaît que la ville a déjà bien avancé sur cette voie en créant le piétonnier. Mais ne devrait-il pas être étendu à l'ensemble du Pentagone, se demande-t-elle, en songeant au cœur de York, bondé de touristes qui soutiennent l'économie locale. Ou plutôt rendre le Pentagone autolu, c'est-à-dire à circulation restreinte aux riverains, livreurs et véhicules de secours. En commençant par mettre en place un réseau performant de transport en commun, évidemment. Et dire que l'histoire des pauvres et des riches clairs est étroitement liée à celle des béguines, pense-t-elle. En effet, pour ce qui est du couvent des premières, des historiens font état de quelques femmes pieuses s'installant dans le courant du XVe siècle sur un terrain à hauteur d'un grand méandre de la Seine, à l'extérieur de la première enceinte urbaine et en face du béguinage. Elles seront certes officiellement soumises à la règle de Sainte-Colette à partir de 1501, mais avant cette date, certains auteurs parlent de béguines pour désigner cette communauté religieuse qui se plaint de la présence de fours à chaux appartenant à des maçons et qui reprendra le terrain petit à petit au fur et à mesure de la disparition de ceux-ci. Quant aux riches clercs, leur couvent aussi était occupé à l'origine par des bégards. Les frères de la vie commune, frères hiéronymites, c'est-à-dire de Saint-Jérôme, ou encore de Nazareth, vivant une existence anarchique en marge des structures établies. Comme sa fille l'a rejoint, Marion lui parle de ce qui lui occupe l'esprit. Tu sais que la direction des monuments et sites de la région de Bruxelles-Capitale et les musées royaux d'art et d'histoire ont fait des fouilles archéologiques dans cet îlot. Ah oui ? Oui, fin 2004. Avant la transformation de l'ancien couvent en logement. Ils ont creusé 6 tranchées, 3 à hauteur de la chapelle et des bâtiments conventuels, et 3 à hauteur des maisons particulières de la rue Van der Helst. Les seuls vestiges de la chapelle encore visibles en élévation sont des fenêtres murées et un fragment de mur du côté de la rue des Hirondelles. Jusqu'à présent, aucune autre trace architecturale de ce bâtiment n'a pu être découverte. Par contre, des inhumations ont été mises au jour directement sous un sol contemporain qui se situerait à peu près au niveau de celui de l'ancienne chapelle. Les défunts ont été inhumés dans des cercueils en bois, dont seuls subsistent encore quelques clous en place et une coloration différente de la terre. Ils ont tous été enterrés tête à l'ouest et pied à l'est, suivant l'orientation de la chapelle. Une tranchée située dans le coin sud-est du terrain a permis de repérer une canalisation en briques qui menait à une des latrines du couvent. Cool. Et tu sais que j'ai vu un plan de notre immeuble datant de 1895. Oh, c'est vrai? Oui. C'était la propriété d'un certain monsieur C. van der Smissen. Et c'était une maison à un étage, plus un grenier. Le toit n'était pas plat, mais classique, à deux versants. Au rez-de-chaussée, le couloir donnait sur une cour qui comportait une citerne et à laquelle on accédait par deux escaliers, un droit devant et l'autre vers la droite, à angle droit. À droite du couloir, tu avais le salon et la salle à manger. À gauche, le parloir, la cuisine, la laverie et une toilette. À l'étage, il y avait 3 chambres, dont celle de gauche avec cabinet de toilette et une salle de bain et une toilette. Notre cuisine et salon actuel étaient des chambres et ta chambre était la salle de bain. Ah ouais ! Quand tu descendais au sous-sol, tu avais droit devant une cave à provisions, à droite une cuisine, une cave à provisions et une cave à vin, et à gauche un office, une toilette et une cave à charbon. Cool ! J'étais en train de réfléchir à l'influence des Béguines avant que tu n'arrives. À l'origine, c'était également des femmes pieuses qui se sont installées ici. Tout comme c'était des Bégards qui vivaient sur le terrain entre l'ancienne demeure des Sœurs Noires et la Seine, appelée primitivement l'ancien château, près de l'église de Saint-Géry. Après être passé en plusieurs mains, il est vendu à Hugues de Heidfeld en 1480, qui y installe les frères de la vie commune. Ceux-ci obtiennent l'autorisation d'enseigner la grammaire, la logique et la musique à leurs domestiques et à leurs commensaux, ainsi qu'aux pauvres demeurant dans leur maison, à 60 enfants de la ville et à tous les étrangers, pauvres ou riches, qui désirent recevoir leurs leçons, les indigents devant être instruits gratuitement. Ils ont compté jusqu'à 200 élèves. Et c'est parce que les riches clercs, une communauté pourtant réputée fort peu utile, n'a plus de couvent après avoir été expulsé de la porte de Halle, qu'on supprime la corporation des Hiéronymites, qui pourtant s'était rendue recommandable par de grands services. Ah bon ? Oui, il faut dire que le terme de leur existence est marqué par un triste événement. En 1587, les étudiants élèvent un théâtre et des loges contre un mur du cimetière de Sainte-Gudule pour y donner une représentation. Mais ces constructions sont faites avec peu de soin et le 20 juillet, au moment où tout le monde est placé, on allait lever la toile quand les loges se sont écroulées, entraînant les spectateurs dans leur chute. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés. Et paf, les Bruxellois. « Oh, mauvaise !» réagit Marion, sans pourtant pouvoir s'empêcher de rire de l'humour noir de sa fille. En 1830, Thérèse accueille son arrière-petite-fille pour une collation de fruits, de massepains et de confitures. Il ne faut guère attendre longtemps pour qu'Agnès, une fois installée devant sa tasse de tisane, prie sa bisaïeule de lui faire le récit de son passé. « Comment l'histoire du béguinage s'est-elle terminée, Bobonne ?» l'interroge-t-elle. « Oh, mais tu sais bien, Joseph II s'est mis à supprimer une multitude de couvents jugés inutiles. Alors nous, qui n'étions pas des religieuses, nous avions d'autant plus mauvaise presse auprès de l'administration qui ne rêvait que d'une chose, nous éliminer. » « Oh !» lâche l'adolescente, sa voix trahissant sa stupéfaction. Elle jugeait que nous n'avions aucune des qualités requises pour soigner les malades et ne jurait que par les sœurs noires et les hospitalières de Saint-Jean. Les premières, moyennant une légère rétribution, se rendaient dans toutes les maisons où elles étaient appelées. Elles étaient considérées comme des gardes-malades sûres, exercées, et elles jouissaient de la bienveillance publique. Quant aux hospitalières, elles étaient vues comme des amies du pauvre, des modèles des vertus chrétiennes. Une hospitalière passe sa vie auprès du lit des malades, au milieu d'une atmosphère malfaisante, disait-elle. Jamais elle n'enfreint ses vœux dont une loi sage a borné la durée. Aucune fatigue ne l'effraie, aucun soin ne la rebute, aucun danger ne l'arrête. Elle se contente d'une nourriture frugale, d'un habit grossier. Heureuse de soulager l'infortuné que sa piété bienfaisante lui fait considérer comme son frère, récite Thérèse avant de changer de ton. Beaucoup de blabla. Je peux te dire que les pauvres avaient tant d'horreur pour l'hôpital Saint-Jean que la plupart préféraient rester chez eux couchés sur la paille et mal soignés que de s'exposer à gagner des maladies dangereuses dans un hôpital où tout était confondu. Comment cela confondu? L'hôpital n'avait que 2 salles, sans feu, et 13 portes de communication, ce qui les rendait insupportables pendant l'hiver. Elles ne se divisaient que pour la différence de sexe. Les malades accablés de fièvre pestilentielle ou épidémique, ceux qui étaient légèrement incommodés, les blessés, les femmes accouchées, les convalescents, tout en un mot s'y trouvait confondu. Par-dessus le marché, comme il n'y avait que 2 salles, toutes les opérations chirurgicales étaient exécutées au milieu des malades, qui indubitablement devaient en souffrir. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait que ceux auxquels on amputait un membre qui étaient portés au chauffoir en traversant une cour, ce qui a causé la mort de plusieurs de ces mutilés. Comme il n'y avait que 77 lits, on était quelquefois obligé de mettre jusqu'à 3 personnes dans le même lit. Te rends-tu compte? Les yeux grands ouverts de la jeune fille en disent long sur ce qu'elle imagine effectivement. Et le comble de l'histoire, c'est que les religieuses laissaient parfois pendant 12 heures les morts à côté des malades, pour lesquels c'était un affreux voisinage, si tu veux mon avis. En 1750, le lendemain de la visite impromptue, la mère de Jeanne se présente seule à la même heure au couvent où réside sa fille. Intriguée, Jeanne exécute la demande d'aller chercher Angèle. Lorsque toutes deux reviennent, elle trouve la maman installée au parloir, lambrissée de boiseries foncées. Curieuses, les adolescentes prennent place autour de la table, couverte d'une nappe en laine brodée. Lorsque la dame prend la parole, Angèle, toujours sous le coup de ce sentiment étrange d'embarras et d'étonnement, tripote machinalement un fil du tissu qui s'est détaché sur quelques centimètres. « J'ai une révélation à vous faire, dit l'adulte. Mais avant cela, jurez-moi par la sainte obéissance que tout ce que vous entendrez ce soir restera entre nous. » Après en avoir obtenu le serment, la mère poursuit. « Je sais pourquoi vous vous entendez à merveille, pourquoi vos personnalités sont similaires et complémentaires. » Tournant le regard vers l'aînée, elle lui révèle d'une voix veloutée, comme désireuse de l'envelopper dans un cocon douillet. « Je suis ta mère. » Une nouvelle d'autant mauvaise que je ne pourrai rien y faire. Ta situation ne pourra pas changer parce que mon mari n'est pas au courant. Je t'ai reconnue, Dieu sait comment. Un air de ressemblance avec ton père sûrement. Et le prénom dont je t'avais baptisé que tu as gardé. J'avais pourtant pris mes dispositions pour que tu sois emmenée au béguinage de Dist. Je ne comprends pas. Angèle secoue légèrement la tête, plus pour chasser les larmes amères qu'elle sent monter que pour la contredire. Elle n'a entendu que la première phrase qui l'a plongée dans une espèce d'état comateux, de léthargie. Quant à Jeanne, elle regarde sa mère pendant plusieurs minutes avec une fixité silencieuse. Agitée de longs frissons de la tête aux pieds, Angèle sort brusquement de sa torpeur et quitte la pièce en courant. « Vois-tu, je suis tombée enceinte très jeune, » poursuit la mère à l'intention de sa cadette. « Et le père d'Angèle n'a pas désiré assumer ses responsabilités. Je ne voulais pas me retrouver au Bovendal. J'ignore ce dont vous me parlez, mère. Un refuge pour les femmes publiques, les filles de mauvaise vie, près des minimes et de l'hôpital Saint-Pierre. » Sa fille restant muette, ne comprenant visiblement pas un mot de ce que lui dit sa mère, celle-ci explicite. « J'étais vouée à coup sûr à la prostitution lorsque j'ai rencontré ton père. Un noble, penses-tu? J'étais enceinte, mais il était prêt à m'épouser si je me débarrassais de ma bâtarde. » Son ado ne disant mot, la mère continue ses explications. Ceci dit, l'affaire me résoudra... Enfin, tu vois ce que je veux dire, bégaye la mère. Je n'ai pas pu. J'aurais peut-être dû. Se retrouvant dans l'un de ces moments où la force abandonne, où insensiblement les membres se dérobent, s'affaissent pour ainsi dire les uns sur les autres, la mère s'est tue. Dans la maison des dentelières, Francisca et Angèle prennent un moment pour discuter ensemble comme elles y ont pris goût. Tu n'es plus l'enfant que tu étais, mais elle vit encore en toi, cette petite. Ne cherche pas à l'annihiler, à l'éradiquer, dit Francisca d'une voix douce. Ce serait impossible de toute façon. Elle fait partie intégrante de toi, comme pour tous les êtres humains. La clé, c'est de l'accepter comme le reste de ce qui est en nous. Une fois de plus, accepter est difficile. Mais ce l'est moins si on se voit comme un petit enfant innocent, un petit enfant qui s'énerve, qui est triste, qui se dévalorise à ses propres yeux, comprends-tu? Oui, mais comment faites-vous? J'imagine une gamine assise par terre, les joues rouges, les sourcils froncés, en colère contre elle-même, tourmentée par des pensées négatives. « Je suis bien nigaude, je n'y arriverai jamais. » Parce qu'elle n'est pas capable de lasser ses chaussures alors qu'elle voit les autres le faire aisément. Nous qui la voyons, nous ne penserions jamais à la juger, à la rejeter, à lui dire que c'est une godiche. Nous lui montrons, nous l'apaisons, nous l'encourageons parce que nous savons qu'à force de s'exercer, elle y arrivera. La clé, c'est de ne pas juger, ni se juger soi-même, ni juger les autres. Ce n'est pas simple, vous en conviendrez. Oui, bien sûr, personne n'est parfait. Je blesse l'enfant qui est en moi, je blesse ceux qui m'entourent, mais je le vois. J'en prends conscience et j'essaye de rectifier. Et puis je me dis, je ferai mieux la prochaine fois. Un acte de bonté à la fois. Pendant ce temps, François est lui aussi entré dans le béguinage. Ayant pris l'habitude de marcher à pas furtifs, il capte ainsi de nombreuses conversations. Lorsqu'il entend la voix de Constance répéter pour la 36e fois sa rengaine, il n'y prend plus vraiment garde. Si c'est pas malheureux, oh Herme, si c'est pas malheureux. Quand soudain il entend ajouter « Enfin, c'est peut-être mieux comme ça. » Le policier revient sur ses pas lorsqu'il entend la dentelière achever sa phrase. « Dans un certain sens, c'est peut-être pas plus mal. Elle n'aura en tout cas pas fini comme la pauvre Émilienne. » L'inspecteur tend l'oreille et s'approche de la doyenne. « Que voulez-vous dire par là? Qui est Émilienne ?»« La mère de Clotilde, pardi. » La pauvre a vu sa mère agoniser lentement d'une horrible malédiction, la maladie de Charcot, une variante fulgurante. Émilienne est décédée 2 ans seulement après l'apparition des premiers symptômes. Vous vous rendez compte? L'officier quitte immédiatement l'enclos, les petits cheveux de la nuque hérissés, le cerveau submergé par un tourbillon de pensées. Et si Clotilde avait organisé son assassinat? Émet-il l'hypothèse. La victime aurait-elle hérité de la maladie de sa mère? Il retourne au commissariat procéder à de nouvelles vérifications. Clotilde était aide-soignante. Travaillant depuis plus de 25 ans dans le monde médical, elle aura certainement accompagné sa mère dans son long calvaire. Assis dans son bureau, François reprend les pièces du dossier, les regarde, médite les yeux à moitié fermés quand soudain, sorti de nulle part, lui remonte un souvenir, la prescription de Clotilde. Pris d'un accès de frénésie intense, l'inspecteur quitte les lieux sans même prendre le temps d'endosser son éternelle gabardine. Il se revoit près d'un an plus tôt, allant trouver Clotilde pour qu'elle prescrive un traitement pour les douleurs d'estomac de sa femme Mathilde, alors enceinte de leur enfant. Si au plan professionnel, François est sûr de lui, dans le domaine privé, Il a tendance à se réfugier dans son monde intérieur, ce qui lui confère une certaine timidité. Fidèle en amour, il a toutefois des difficultés à communiquer son affection, à exprimer ses sentiments. Il n'aime peut-être pas les grandes démonstrations et les déclarations enflammées, par contre, il est dévoué et attentif au bien-être de sa partenaire. Après avoir posé quelques questions sur l'état d'esprit de Mathilde, Clotilde lui avait préparé un sachet de mélange de thé vert, hibiscus, fenouil, racines de chicorée et écorce d'orange pour favoriser la digestion. Et le fameux second mélange à base de marc de pomme pour calmer la patiente. Elle avait rédigé un billet recommandant de boire la décoction du sachet numéro 1 après chaque repas et la décoction numéro 2 le soir au coucher. François s'est mis à courir. Une fois chez lui, il compare les écritures des deux billets. Reconnaît la main de Clotilde sur la pièce à conviction trouvée sur la scène du crime et tente de reconstituer le déroulement. Il suppose qu'elle l'aura glissé à son amant, le maréchal Ferrand, à la fête de Sainte-Ursule. Sans un mot, perdu dans une concentration productive, il quitte sa maison sans un regard pour son épouse assise sur le sofa, son bébé qu'elle allait dans le creux du bras. Atteindre la forge ne lui prend que quelques minutes. Léon, ayant d'abord esquissé une grimace de surprise douloureuse, répond volontiers à ses questions. Très affectueuse, mais déterminée, Clotilde était femme à toujours obtenir ce qu'elle désirait. Résignée, presque soulagée de retirer un poids accablant, oppressant de la poitrine, Léon passe rapidement aux aveux. Il ne connaît pas la raison pour laquelle il a été chargé de cette besogne. C'est elle qui l'a laissé entrer. Il a endossé cette mission parce qu'il avait le béguin pour elle. Amoureux, il a accepté de la tuer car il l'aimait profondément. Le fait que ce soit un amour unidirectionnel ne l'arrêtait pas, au contraire. Plus elle le rejetait, plus il s'attachait à la convaincre de se laisser aimer par lui. L'inspecteur avait donc vu juste. Clotilde a commandité son propre assassinat, qui requiert force et précision, résonne dans son esprit la réponse du forgeron. Bien sûr. Avec le recul, tout s'éclaire, pense le policier, quand on a la réponse à l'énigme. Comment se fait-il que personne ne vous ait vu ? Demande-t-il. Comment avez-vous fait pour sortir du béguinage ? Je me suis cachée dans le jardin près de la porte, jusqu'à la découverte de Clotilde. Lorsqu'Angèle a hurlé en découvrant la scène, la portière est accourue, toutes les voisines sont accourues, et j'en ai profité pour m'éclipser. Et l'arme du crime ? Où l'avez-vous cachée ? L'homme se redresse, saisit sur l'étagère un objet qu'il tend à l'inspecteur. Celui-ci reconnaît la sculpture, une espèce de flamme ajourée que le forgeron avait laissé tomber le jour des funérailles de Clotilde. Il ne peut s'empêcher de sourire en pensant qu'en façonnant la flamme, l'âme du feu, le géant au cœur de coton a forgé la plus belle image de la transcendance. Ignorant la signification du sourire de l'officier, le forgeron commente. Clotilde me disait, un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. La nouvelle de l'arrestation de Léon se répand comme une traînée de poudre. François se demande pourquoi Clotilde n'a pas utilisé des plantes mortelles pour mettre fin à ses jours. Elle possédait toutes les connaissances nécessaires et les béguines auraient pensé qu'elle était morte dans son sommeil. La question restera probablement sans réponse. Qui sait, peut-être était-ce un message avant-gardiste et post-mortem à ses compagnes. Ne portez pas de jugement les unes sur les autres. Le privilège de mourir dans la dignité est en droit. Écoutez votre petite voix. Chacun sait ce qui est bon pour soi.